Let's Prod. Le podcast de la production musicale. Let's Prod. Par DJ Network. L'école des DJ et du son.
Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, le mixage audio. Et pour traiter le sujet, nous échangerons avec le producteur et beatmaker Young Dreads. Young Dreads est également l'assistant mixeur de Nicolas Fèves, connu sous le nom de NKF. NKF et lui mixent aujourd'hui l'essentiel des hits français, de Damso à Niska, en passant par Angèle ou encore PNL. Récemment, il a mixé certains morceaux de l'album Ultra de Booba, ou encore le dernier single de Seven Joes. Young Dreads nous expliquera sa façon de travailler, nous dévoilera les plugins qu'il aime utiliser, et nous évoquerons aussi avec lui une spécificité, le mixage des voix. Dans la deuxième partie de cet épisode, nous nous intéresserons de près au traitement parallèle. Comment les réaliser? Dans quel but? Nous parlerons notamment de la compression et de la saturation parallèle, devenues aujourd'hui indispensables pour obtenir un mix moderne. La troisième partie sera consacrée aux effets de reverb et de délai. Comment les traiter? Quels outils utiliser? Nous ferons un point sur ce sujet technique. Enfin, nous parlerons de la bus compression, c'est-à-dire la compression de la piste master lors du mixage. Est-elle indispensable? Quel compresseur utiliser? Nous vous donnerons quelques clés et références. Voilà pour un aperçu du programme. Let's Prod, c'est parti!
Let's Prod.
Pour débuter cet épisode, nous accueillons le producteur et mixeur Young Dreads. Bonjour à toi, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir si tu as démarré ta carrière musicale par la production ou le mixage.
Moi, j'ai commencé la carrière musicale par la production. Et pour être encore plus précis, j'ai commencé en jouant dans des groupes, en fait. J'ai appris le piano quand j'étais petit. Et donc, j'ai commencé à composer assez tôt, à peu près à l'adolescence, en fait. Je commençais à m'amuser sur mon petit clavier, composer des petites instrumentales. Je me suis un petit peu équipé, et puis je commençais à composer. Puis un petit peu après, il y a plus le côté technicien qui est arrivé, et puis j'ai voulu en faire une carrière.
Comment as-tu appris les techniques de mixage audio?
J'ai fait une école de son. Les écoles de son sont très importante pour les bases, pour toute la théorie et pour évidemment aussi un peu de pratique, mais c'est évidemment après l'expérience de son côté en studio avec des projets avec des artistes qui est hyper formateur, donc je peux aussi dire que l'apprentissage sur le tas, il a été très important aussi.
Comment as-tu débuté la collaboration avec Nicolas Fèves, aka NKF?
Bah écoute, ça a été un concours de circonstances. En fait, si tu veux, j'ai mixé un album l'année dernière de hip-hop, un peu boom-bap, un peu old school. Un ami à moi, là, qui est producteur ici à Montréal, qui est un super collectif. Ils m'ont engagé pour faire le mixage de leur album. Et puis, ils ont été super satisfaits. Et puis, si tu veux, lui a un ami en commun avec NKF. Donc, NKF recherchait un assistant, recherchait quelqu'un pour l'épauler. Puis, via cet ami en commun, il s'est arrivé jusqu'à moi, quoi. Et puis, un coup de téléphone, puis une rencontre. Et puis, hop, on a commencé à travailler ensemble. Donc, c'est toujours gratifiant. Que ça se passe comme ça, évidemment, ça motive.
Sur quel dos travailles-tu?
Moi, je travaille sur Pro Tools. Je fais tout dedans. La composition aussi, les arrangements, le mixage, l'enregistrement, tout en fait.
Avec quelle configuration travailles-tu, notamment au niveau de ta carte son et des enceintes de monitoring?
Écoute, ma configuration, elle est extrêmement simple. Je suis vraiment dans une approche minimaliste. Non pas que j'aime pas le hardware, mais pour moi, c'est un petit peu annexe. C'est pas forcément les premiers achats dont je vais avoir besoin. Moi, ma configuration à la maison, elle est très simple. J'ai une Babyface RME. J'ai une paire de BM6A classique Dyn Audio, là. Et puis sinon, c'est pas mal ça. Un ordi qui tient la route et puis un petit contrôleur MIDI, une petite machine Native Instruments. C'est vraiment une approche minimaliste pour aussi se déplacer et être nomade. Je pense que la config un peu plus nomade, elle est intéressante. T'es plus libre d'aller collaborer à droite et à gauche et c'est ça qui me plaisait, si tu veux.
Pour réaliser tes mixages, es-tu 100% in the box ou utilises-tu du matériel hardware ?
100% in the box pour le mixage. Il y a tous les outils qu'il faut déjà dans le numérique et puis surtout il y a plein d'émulations de machines analogiques maintenant, donc si on veut aller chercher le petit grain, la petite chaleur analogique, il y a quand même de quoi faire, quoi.
Quels sont les plugins que tu affectionnes particulièrement en mixage ?
C'est très variable. Il y a beaucoup de plugins que j'aime. Évidemment, j'utilise les Waves comme beaucoup de gens. C'est quand même une compagnie qui est standard dans l'industrie, qui est super light sur le CPU en général, qui propose déjà quasiment tous les outils. Donc, ça fait évidemment partie de l'arsenal. J'aime beaucoup ce que font Arturia. Je trouve que leurs émulations, justement, des machines analogiques, elles sont très bien faites. Et ce que j'apprécie particulièrement, c'est qu'ils rajoutent beaucoup de features qui n'étaient pas dans les machines originales. Donc, ça, c'est très, très cool. Et FabFilter, c'est, je pense que en termes d'innovation, en termes de précision, c'est sûrement dans le top 5 des compagnies aujourd'hui de plugins. Il y en a plein d'autres, après, des petites compagnies qui brillent peut-être moins, qui sont un peu moins devant de la scène, mais Valhalla, par exemple, leurs plugins d'effets temporels sont incroyables. Super light sur le CPU aussi, si tu veux. Plus le temps passe, plus le choix aussi des outils se fait au niveau de l'optimisation. C'est pas seulement l'outil le plus joli avec la plus jolie interface, finalement, on s'en fiche un peu, c'est plus est-ce que ce plugin me permet de garder un workflow optimisé à 200%. Donc c'est vraiment ça qui est hyper important, moi, dans le choix des outils. T'as des outils secrets aussi. Je peux t'en donner un si tu veux. Sous, peut-être vous avez déjà entendu parler de ça. Là, c'est un plugin de réduction de résonance à utiliser avec précaution. Sous de chez Uxound. C'est une compagnie, je crois, norvégienne ou suédoise. Et c'est très, très fort.
Concernant les voix, quelle est en général ta chaîne de traitement ?
Ma chaîne de traitement pour les voix, elle est très changeante et très variable. Première chose que je peux te dire, c'est qu'il n'y a pas un seul mix qui est égal et je pense que tu partages mon point de vue. Ce que je vais souvent utiliser, évidemment, il faut faire le nettoyage en premier, donc un EQ. Très souvent, ça va être un Pro-Q ou un Pro-Q 3 parce que c'est chirurgical. Je m'essaye à aller chercher le timbre que je veux pour la voix. Plus que d'entrer dans cette espèce de chirurgie esthétique, je préfère aller avoir une voix qui sonne déjà bien avec le timbre qu'il faut. Donc souvent, ça rentre dans un compresseur, une émulation de 1176, ça marche très très bien. Faut pas hésiter à pousser d'ailleurs ces machines-là pour vraiment que ça drive un petit peu, que ça ajoute un petit peu de distorsion harmonique. Après ça, de la coloration très souvent. Donc, encore un petit peu de distorsion harmonique. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est faire ça par petits étages. Des fois, ça va être un inflator de chez Sonox, ça peut être un Saturn 2 de chez FabFilter. Finalement, plus que d'utiliser un EQ traditionnel puis de booster des fréquences, je vais plutôt aller ajouter ce que j'ai envie de plus entendre en drivant, en faisant de la saturation. Puis évidemment, Faut aller contrôler aussi ce qui se passe, donc un DSR bien sûr, un petit sous s'il y a besoin pour des résonances qui sont agressantes ou qui sont trop présentes dans le bas du spectre. Puis ça finit souvent dans un petit compresseur multiband aussi, histoire de bien contrôler le tout à la fin. Je pense que faut pas hésiter à tourner les boutons, mais évidemment en tournant les boutons ça va exagérer certaines choses, donc faut contrôler tout ce qu'on a ajouté quoi. Donc c'est un petit peu ça, si tu veux, EQ, compression bien sûr, DSR, et puis saturation aussi, et puis finalement un petit compresseur multiband en bout de chaîne. Je t'ajouterai un petit truc si tu veux, parce que ça fait beaucoup partie de mon travail, et beaucoup partie de mon travail pour NKF, c'est avant même de parler de la chaîne de voix, extrêmement important de faire le nettoyage des pistes. C'est pas la partie la plus funky, mais c'est la partie qui est sans doute une des plus vitales pour que le mix, et surtout le mix des voix, sonne vraiment bien. Donc faut vraiment pas hésiter à aller faire du denoiser là, faut faire du RX, contrôler les respirations, enlever tous les petits clics de bouche, etc. Ça c'est vraiment ce qui est hyper important.
Utilises-tu des traitements parallèles, comme la compression ou la saturation parallèle ?
Les traitements parallèles, oui, j'en utilise. Alors, ce qui est cool maintenant, c'est que tu as énormément d'outils, énormément de plugins qui ont finalement un bouton dry-wet, qui ont un bouton de mix intégré. Ça peut éviter de devoir utiliser un bus en parallèle, donc créer une piste auxiliaire, etc. Je te donne un exemple, le 1176 chez Arturia, leur émulation. Ça fait aussi partie du fait que j'aime ce plugin, c'est qu'il y a un bouton de mix de dry-wet. J'ai pas peur d'aller pousser le process de ce 1176, d'aller driver vraiment, puis de réinjecter un petit peu du signal original en changeant un petit peu le ratio dry-wet. Après, le traitement parallèle, il passe aussi par tout ce qui est reverb, délai et tous les effets temporels. Donc évidemment, il y en a des doubleurs, des chorus, bien sûr. Distorsion parallèle, ça arrive aussi. Je le fais souvent sur tout ce qui va être basse fréquence, tout ce qui est bass, sub-bass, 808, les drums aussi, bien sûr. Une petite compression parallèle, ça marche très bien. Mais pas systématique, quoi. Faut que ça serve le mix. Faut pas faire de la démonstration technique, ça vaut pas le coup, en fait.
Quel plugin as-tu l'habitude d'ajouter à ta piste master ?
La piste master, je mets jamais rien dessus, si ce n'est juste des analyseurs de spectre. Tu vois, je check l'image stéréo, etc. Donc c'est vraiment juste des plugins d'analyse sur le master fader. Avant d'arriver dans mon master fader, il y a un mix bus. Et c'est là, en fait, où je vais mettre tout le processing dont je vais avoir besoin. Je suis de plus en plus dans une approche de less is more, tu vois. J'essaie de pas dénaturer le mix trop. Je vais assez loin à l'étape du mix, dans tout ce qui est élargissement stéréo, saturation, etc. C'est en général assez simple. Parfois un petit peu d'élargissement stéréo en multiband, moi j'aime bien. Donc le Imager de Ozone, ça marche plutôt pas mal. Un petit limiteur, forcément. Moi je recommande les Sony Oxford ou le Pro L2 de FabFilter. Parfois ça va être du traitement en multiband aussi. Puis un dernier limiteur, très souvent, évidemment en True Peak, pour s'assurer que ça dépasse pas le zéro, quoi. C'est assez light. Ça m'arrive évidemment de faire un petit peu d'EQ aussi de temps en temps. Un petit EQ linéaire, histoire de corriger quelques petits problèmes. Mais je suis de plus en plus partisan de revenir à l'étape l'étape du mix. Si on a accès au mix, pourquoi s'en priver en fait ?
Pour terminer, aurais-tu une astuce top secrète à révéler à nos auditeurs ?
La plupart du temps, ce sont des techniques qu'on connaît, c'est des outils qu'on connaît, mais qu'on va aller détourner. Je te donne par exemple un exemple. Moi, un outil que j'aime bien détourner, c'est le Echo Boy de Soundtoys, une autre compagnie que j'aime beaucoup. Le Echo Boy, c'est un délai qui émule aussi pas mal de machines hardware. Donc, il y a plusieurs timbres qu'on peut aller chercher, plusieurs couleurs. Moi, ce que j'aime beaucoup faire avec celui-là, par exemple, c'est pas du tout l'utiliser en écho, en délai, de mettre le délai à 0 millisecondes, donc il n'y a aucune répétition, zéro feedback, et d'utiliser juste la section de filtre. Ça va être mon outil principal, par exemple, que je vais utiliser pour faire tout ce qui va être les effets un peu voix téléphone ou les effets momentanés, tu vois, les petits ear candies comme ça. Moi, j'aime beaucoup utiliser ce plugin-là pour ça. Je te dirais qu'une petite technique secrète, un conseil que je donne, faut pas hésiter à rajouter de la dynamique dans les mix. Je m'en suis rendu compte finalement il n'y a pas si longtemps. On a toujours tendance à vouloir contrôler la dynamique, donc on compresse à plusieurs étages dans le mix, puis on arrive à la fin du mix, puis on a l'impression finalement que ça manque de punch, ça manque de groove, ça manque d'impact. La bonne approche, c'est plutôt l'inverse. Faut pas hésiter à en rajouter de la dynamique. Puis à la toute fin du mix, tu vas contrôler tout ça. Un outil, par exemple, qui serait pour moi un outil un peu secret, parce que je vois pas forcément beaucoup d'ingénieurs l'utiliser, ce serait le Transient Designer. Faut en mettre partout, quoi. Pas partout, j'exagère, mais faut pas hésiter à aller chercher de l'attaque, aller chercher le clic d'un kick, l'attaque des notes d'une guitare. Faire ressortir cette dynamique dans la musique, ça donne du mouvement, ça donne un côté plus impressionnant aussi. Ça marche évidemment mieux pour certains genres musicaux, mais ouais, ce serait pas mal ça. Une autre chose que je peux ajouter par rapport à ça, par rapport à des astuces, c'est faut pas hésiter à faire justement les petits ear candies, comme on appelle ça en anglais beaucoup, c'est les petits effets momentanés. Faut pas du tout hésiter à en faire. Hein. Donc une petite automation dans une reverb, un délai, mettre un petit bout en reverse, faire un petit slowdown, un petit speed up, faire un cut carrément, couper tous les effets temporels sur deux mots d'une voix. Ça sonne super sec, c'est un petit peu déstabilisant, mais du coup, c'est aussi quelque chose qui va être mémorable. Les gens, quand ils vont entendre la chanson, ils vont avoir envie de réécouter ce passage-là parce qu'ils vont se dire « Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là ? J'ai pas compris. » Mettre un instrument qui s'en va dans une reverb, et mettre tout ça en reverse, tu vois, et puis tu mets ça en fond, t'essayes de créer des textures. Le sound design, en fait, est hyper important. C'est vraiment la clé, je pense, pour rendre un mix intéressant. C'est pas seulement l'aspect technique, c'est pas seulement ajouter des EQ, corriger, etc. Ça, c'est hyper important, mais c'est ajouter une touche créative. Comment est-ce qu'on rend ça encore plus intéressant ? Comment est-ce qu'on peut aller plus loin encore dans la vision de l'artiste et rajouter des petits effets spéciaux qui vont donner vie en fait à la chanson, quoi. Donc pas de grosses astuces top secrètes, mais plus des petits conseils d'arrangement, de sound design et puis d'effets qui peuvent vraiment faire ressortir un technicien, un ingénieur de son du lot en fait. C'est ça en fait le but du jeu, je pense.
Merci à Young Dress pour ses réponses qui, nous en sommes certains, vous aideront à améliorer vos prochains mixages audio. On enchaîne avec notre deuxième sujet consacré au traitement parallèle.
Let's Prod, le podcast de la production musicale.
Un traitement parallèle consiste à dupliquer une piste, lui appliquer des traitements sonores, puis la mélanger avec la piste originale non traitée. Pour effectuer ce traitement, il est possible d'utiliser une piste retour, aussi appelée piste auxiliaire dans certains DAW. Parmi les traitements parallèles, la compression parallèle est sans doute la technique la plus répandue, même si n'importe quel traitement peut être réalisé en parallèle. Il est évidemment possible de combiner les traitements. Un compresseur en parallèle peut, par exemple, être mélangé avec un equalizer afin de réduire la dynamique d'un signal, tout en ne conservant que certaines fréquences d'intérêt, par exemple les médiums. Aujourd'hui, les traitements parallèles sont partout. La compression parallèle peut être utilisée sur de nombreux instruments comme les drums, les basses ou encore les voix. Son intérêt peut être multiple. Si l'on utilise par exemple un fort taux de compression, la compression parallèle permettra d'apporter de la présence sur une voix lead. Avec une attaque lente et un release rapide, elle pourra donner du punch à des drums. N'hésitez pas à ajouter une forte dose de compression parallèle sur la plupart de vos instruments si vous souhaitez être compétitif dans la guerre du loudness. Elle peut même être réalisée sur un mix entier et ainsi permettre une augmentation du niveau LUFS. Les compresseurs de prédilection pour cet usage sont l'Universal Audio 1176, le SSL Bus Compresseur ou encore le Chandler Limited. Vous trouverez d'excellentes émulations de ces machines chez UAD, Waves et Softube. La saturation peut, elle aussi, fonctionner en parallèle. En général, les basses 808 sont saturées avec des amplis de guitare et filtrées pour ne conserver que les fréquences médium, ce qui leur permet d'être entendues sur tout type d'écoute, même sur de petits systèmes son. Au niveau des saturations, Guitar Rig 6 de Native Instruments, mais aussi n'importe quel plugin de pédale de guitare pourront être efficaces pour saturer en parallèle. N'hésitez pas à essayer la saturation parallèle également sur les voix, notamment pour des styles musicaux comme la trap ou la pop, qui font généralement appel à des distorsions à tube. Elle permet d'enrichir le son en harmonique sans dégrader la voix originale. Le résultat est donc plutôt sympa. Comme pour la compression, il est possible d'équaliser la saturation afin de ne conserver que certains harmoniques. Dans ce cas, préférez utiliser des équaliseurs à phase linéaire. Ces derniers vous permettront d'éviter des conflits de fréquence entre la piste originale et celle traitée. Enfin, une autre possibilité peut être d'appliquer un chorus en parallèle à des guitares afin d'augmenter la sensation de stéréo. Pour réaliser cette technique, il est en général préférable d'utiliser des chorus vintage. Vous pouvez utiliser des plugins comme Suntoys Echo Boy, Chorus Dimension D d'Arturia ou encore Waves Doubler. Il ne s'agit là bien sûr que de quelques exemples. Testez l'utilisation de vos plugins d'effets favoris en parallèle, soyez créatifs. Vous pourriez tomber sur des résultats très intéressants. Enchaînons maintenant avec notre sujet consacré au reverb et délai.
Let's prod.
Les reverbs et les délais sont sans doute les effets les plus couramment utilisés en production musicale, mais aussi les plus difficiles à travailler. En effet, lorsqu'ils sont mal dosés, ils peuvent conduire à embrumer un mix plutôt qu'à l'embellir. Pendant le mixage, nous vous conseillons d'utiliser les reverbs et délais sur des pistes retours, chacune contenant un type de reverb ou de délai. L'avantage sera ici de pouvoir traiter individuellement les effets. Peut-on alors utiliser reverb et délai sur un mix ? Pour être efficace, il faut d'abord déterminer quel effet doit s'imposer sur l'autre. Si vous recherchez plus de présence sur des voix, nous vous conseillons de ne pas trop les réverbérer, mais plutôt de les délayer. Vous pouvez utiliser des délais courts d'environ 100 millisecondes appelés slap délai, combinés à des délais plus longs comme des échos. En parallèle, les reverbs peuvent vous aider à positionner les éléments dans le mix. En utilisant des temps de déclin courts, il est possible de placer vos instruments dans de petits espaces et ainsi mieux les différencier de l'ensemble de votre morceau. Un plugin comme Valhalla Room est parfait pour cela. Si vous souhaitez utiliser des reverbs longues, pensez à réduire le niveau de vos délais, mais surtout à traiter les pistes retours. Vous pouvez équaliser les basses et hautes fréquences de vos reverbs longues, mais également les compresser afin de contrôler leur niveau sonore. Des élargisseurs peuvent être ajoutés aux reverbs, même si elles-mêmes créent déjà de la stéréo. Un plugin comme le Waves S1 Imager, placé à la fin de la piste retour, est très utile pour écarter les reverbs. Les plugins de reverb très appréciés en mixage sont la Valhalla Vintage Verb, le MT-140 du AD ou encore la Air Verb de Waves. Si vous préférez les échos aux reverbs longues, vous pouvez également les filtrer pour ne conserver que les fréquences médiums. Il est aussi tout à fait possible de les saturer pour obtenir une couleur particulière. Pour obtenir des délais très actuels, la technique consiste à appliquer une reverb après le délai. Vous obtiendrez alors des délais diffusés qui sont très tendance actuellement. Les plugins de délai les plus utilisés en mixage sont le Waves Edge Delay, Suntoys Echo Boy et Valhalla Delay. Ces plugins ont l'avantage d'être très polyvalents et vous permettront d'obtenir la plupart des sonorités d'aujourd'hui. De manière générale, n'hésitez pas à faire preuve de créativité sur vos pistes retour en créant de nouvelles chaînes de traitement. Terminons l'émission en évoquant le cas de la bus compression.
Let's prod.
La bus compression consiste à compresser le mix entier. Son objectif est double. Contrôler la dynamique globale du morceau, mais aussi coller littéralement les différents éléments du mix. Aujourd'hui, elle reste très utilisée même si elle n'est pas obligatoire. En effet, des outils plus précis comme des clippers ou des limiteurs permettent de contrôler les crêtes sonores des pistes avant d'arriver sur le master. Ainsi, la bus compression sert plus aujourd'hui à apporter de la couleur à un mix qu'à réellement contrôler sa dynamique. Vous pouvez placer le compresseur au début de la chaîne de traitement du master. Le bus compresseur le plus emblématique est sans doute le SSL Bus Compressor. À l'origine, il trônait au centre des consoles de mixage SSL et a été utilisé sur d'innombrables disques. Il existe de nombreuses émulations, notamment chez UAD, Waves ou encore Slate Digital. D'autres bus compresseurs peuvent être utilisés. Nous pouvons citer l'emblématique Neve 33609, le Fairchild 670 et le Focusrite Red. Chacun de ces compresseurs apportera une couleur différente au mix en fonction des technologies utilisées. Il en existe des émulations chez les marques Tirax, Waves et évidemment UAD. Côté réglage, on choisira en général une attaque lente pour préserver le punch des sons, ainsi qu'une release rapide pour une bonne réactivité. Les taux de compression dépassent très rarement 4:1 pour une réduction de gain comprise entre 1 et 3 dB. Dans tous les cas, la bus compression doit rester discrète sous peine de ruiner un mix. Encore une fois, appliquer une buse compression n'est pas systématique, mais doit être ajouté uniquement si nécessaire. J'espère que tous ces conseils vous aideront dans vos futures productions. Si ce podcast vous plaît, encouragez-nous en laissant un commentaire et un maximum d'étoiles sur votre plateforme préférée. Et en attendant, let's prod!
Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son.